salle pour des conférences que nous donnons à Carbone. Merci. Ce soir, le docteur Giraud va vous présenter deux peintres et les problèmes médicaux qu'ils ont. Le docteur Giraud est un passionné d'art, de peinture, et passionné aussi d'histoire de la médecine. Et il a fait le lien entre l'histoire de la médecine et les artistes, en particulier les peintres, et les problèmes médicaux qu'ils ont pu avoir. Belle liaison. Je vais rapidement lui laisser la parole. Le rite est reste inchangé, trois quarts d'heure de conférence, un quart d'heure, 20 minutes de questions que vous pourrez lui poser, et ensuite un repas partagé qui se fera dans le hall de la salle où vous êtes tous conduits. Voilà, je laisse la place au docteur Giraud. Je rappelle simplement que la prochaine conférence qui aura lieu en février portera sur le boson de Higgs. Et le conférencier dans la salle de il est. Bien, place donc au docteur Giraud, à Auguste Renoir, et à Renaud Dufus.
Bonsoir. Ça va, ça marche ?
Il vaut mieux que tu passes le sans fil.
Oui, prenez le sans fil.
Je prends celui-là. Voilà. Bonsoir. Ça marche ? Merci. Et à vous et de me permettre de venir et à Carbone pour vous parler à la fois et de peinture et de rhumatisme. Il se trouve que je suis médecin et rhumatologue, mais je me suis aussi intéressé tout au long de ces dernières années à l'histoire de l'art. Et j'ai essayé de conjuguer, au fond, l'histoire de l'art et l'histoire de la médecine. D'ailleurs, et la guilde des peintres à Florence, à l'époque de la Renaissance, était jumelée avec la guilde des médecins. Il y avait donc, c'était la même guilde des peintres et des médecins. On va donc parler de Pierre-Auguste Renoir et de Raoul Dufy, et j'ai intitulé cette conférence « Un même destin rhumatismal ». Alors, ces deux peintres ont été et sont toujours promotionnés par l'almanach des PTT. Et je vais vous... voyez le moulin de la galette. Et c'est une image qu'on a tous vue. Quoi, hein. Le déjeuner des canotiers également, c'est un très grand tableau de Renoir. Qu'on ne peut pas voir facilement car ils sont tous les deux aux États-Unis. Mais de temps en temps, ils reviennent en France. Voilà, pareil, ce sont des peintres que l'on connaît pour avoir vu dans des reproductions le violon rouge. Non, et alors, qu'est-ce qui se passe alors? Voilà, et puis voilà, la régate à Côte. Donc ce sont deux peintres que nous connaissons tous pour avoir souvent vu des reproductions de leur peinture. Donc c'est à la fois une histoire de la peinture, mais aussi une histoire et de rhumatisme. Et qui n'a pas souffert à un moment ou un autre de douleurs rhumatismales. L'histoire en général est riche de témoignages et de rhumatisants. Mais les douleurs dites rhumatismales recouvrent des réalités et de sévérités bien différentes. Et au gré de mes lectures et de mes curiosités professionnelles, j'ai relevé chez d'autres personnages très connus des histoires de rhumatisme. Et voilà, Escaron, Madame de Sévigné, Georges Sand, Christian Barnard, Colette, Edith Piaf. Par exemple, Scarron qui est un écrivain de la deuxième moitié et du XVIIe siècle, qui a été l'époux de Françoise d'Aubigny. Françoise d'Aubigny qui est une fois veuve et est devenue Madame de Maintenon et s'est mariée avec le roi Louis XIV. Alors Scarron, il est célèbre bon, pour ce fameux livre, le roman comique, mais aussi pour son épitaphe. Sur sa tombe, il avait demandé à ce qu'on écrive « Passant, ne faites pas de bruit et gardez-vous qu'il ne s'éveille, car voici la première nuit que le pauvre Scarron sommeille. » Alors, ça n'a l'air de rien, mais pour un rhumatologue, c'est tout à fait passionnant, ça. Ça signe que le rhumatisme dont souffrait Scarron était un rhumatisme particulier, inflammatoire, car il n'y a que les rhumatismes inflammatoires qui font mal la nuit. Et lui, il n'avait pas une polyarthrite, mais il avait une spondylarthrite. Alors, donc, vous voyez que cette lecture de l'épitaphe n'est pas neutre. Madame de Sévigné. Alors, Madame de Sévigné, qui écrivait presque tous les jours à sa fille Madame de Grignan et qui lui parlait presque dans toutes les lettres de ses douleurs rhumatismales. Je ne puis rien porter, une cuillère me paraît la machine du monde et je suis encore assujetti à toutes les dépendances les plus fâcheuses et même les plus humiliantes. Vous voyez, ça c'est Madame de Sévigné. Georges Sand également, Elle dit, elle écrit, je suis malade depuis Paris, rhumatisé et imbécile par conséquent. Elle ajoute, un autre jour, elle écrit à son amie Marie Dagout et elle lui dit, le rhumatisme fait partie, je crois, de la vie humaine comme la faim et la soif. Et une autre fois, elle écrit à son amie Eugène Delacroix et elle lui dit, le Chopiné. Pour elle, le Chopiné, c'était Frédéric Chopin et ça avait été un de ses amants, le Chopiné a été rhumatisé et il souffre encore. Vous voyez, donc, Christian Barnard également, Christian Barnard, le fameux chirurgien en Afrique du Sud, est le premier à avoir fait une transplantation cardiaque. Il n'en a pas fait beaucoup, il a fait la première et la deuxième, mais il souffrait d'un rhumatisme inflammatoire, le même dont souffrait Renoir et Dufy. Et il écrit, au cours de cette opération, la deuxième transplantation, l'arthrite me donna du fil à retordre. J'eus quelques difficultés avec mes mains, aux doigts horriblement rigides et douloureux, à nouer les sutures. Mais l'intervention fut une réussite. Edith Piaf a souffert toute sa vie d'une polyarthrite. Alors, je voudrais simplement attirer votre attention et, voilà, sur les mains d'Edith Piaf. Vous verrez qu'elle ressemble aux mains de Renoir. Et aux mains de Dufis, tout à fait caractéristique de la polyarthrite. Une femme semblant plus que son âge, usée par la polyarthrite rhumatoïde et l'usage de la morphine. Et puis Colette également, qui a souffert d'une polyarthrite. Et si on regarde bien ses mains, vous voyez ici, ça, on retrouve tout de suite les tuméfactions de ses articulations métacarpophalangiennes qui sont le signe de ce type de rhumatisme, la polyarthrite. En dehors de ces quelques personnages, il y en a bien d'autres. Souvenons-nous que tous nos rois, pratiquement tous nos rois de France, ont eu la goutte. Et il n'y a pas eu que Louis XVIII. La plupart ont été frappés par cette maladie rhumatismale qu'est la goutte. Alors, ce terme de rhumatisme recouvre donc des réalités cliniques bien différentes quant à leur gravité. Le problème, c'est qu'on confond, même aujourd'hui encore, les rhumatismes les uns avec les autres. C'est ainsi que, à l'exposition qui a eu lieu au Grand Palais, il y a quelques mois, Renoir au XXe siècle, c'est-à-dire c'était la production de Renoir justement entre 1900 et 1919, c'est-à-dire au moment où il a été frappé durement par le rhumatisme. Eh bien, les commentateurs, les critiques, y compris les historiens d'art, évoquent dans leurs commentaires le rhumatisme dont souffrait Auguste Renoir. Malheureusement, chacun y va de sa propre dénomination. Les uns parlent d'arthrose, les autres d'arthrite, de membres paralysés, d'une polyarthrite ankylosante, de rhumatismes particulières, des termes au fond qui perpétuent cette confusion dans la pathologie qui a touché Renoir. Même Roger Benjamin, celui qui est responsable du catalogue de l'exposition, c'est un historien de l'art, et c'était tout à fait important ce qu'il allait écrire, mais il met ceci: l'univers de Renoir est cotonneux. Cela tient en partie, il dit en partie, à ses mains rongées par l'arthrose. Vous voyez donc, et c'était en 2014, ça. Donc, il aurait pu se renseigner plus avant, de façon à parler de l'identité du rhumatisme dont ont souffert Renoir et Dufy. Et tout le monde s'accorde donc pour dire que ces deux artistes, ces deux peintres, ont souffert d'une polyarthrite chronique évolutive. J'emploie ce terme de polyarthrite chronique évolutive, c'est le terme qu'on a employé encore il y a une vingtaine d'années. À l'heure actuelle, et c'est important aussi, le nom de la maladie, on ne parle plus de polyarthrite chronique évolutive. Il n'y a rien de plus péjoratif que de dire à une patiente, un patient jeune, vous souffrez d'une polyarthrite chronique et en plus évolutive. Car nos médicaments permettent justement d'arrêter cette chronicité et souvent même de stopper l'évolution. Donc on parle maintenant de polyarthrite rhumatoïde. C'est... Et un mot, juste un mot pour parler de la maladie aujourd'hui. Donc, et c'est une maladie inflammatoire, maladie articulaire, mais qui touche la synoviale, c'est-à-dire l'enveloppe de l'articulation. Et ce n'est que secondairement que cette synovite, cette inflammation de cette synoviale va détruire l'articulation, détruire le cartilage et détruire l'os. Le plus souvent, c'est une maladie qui est exclusivement, mais pas toujours articulaire. Elle peut toucher d'autres tissus que l'articulation, en particulier les poumons et quelquefois le cœur. Bon, le diagnostic, je ne vais pas y insister, il se fait sur la conjonction d'éléments cliniques, imagiers, radiologiques et biologiques. Bon, le traitement de la polyarthrite n'est plus ce qu'il était et à l'époque de Renoir, ni même à l'époque de Dufy, et bénéficie depuis une dizaine d'années de nouveaux médicaments tout à fait efficaces. Je voudrais également, je voulais vous présenter donc cette radiographie pour vous dire, souvenez-vous-en de cette radiographie, car au fond, vous verrez que les mains de Renoir, il y a une destruction des articulations. Là, nous sommes dans une polyarthrite très avancée sur le plan évolutif, et où l'articulation a quasiment disparu. Vous voyez, il n'y a plus d'articulation. L'articulation a été donc rongée, entre guillemets, par cette synovite. Deux mots sur l'histoire de la polyarthrite, comme quoi l'histoire des maladies est souvent une des histoires passionnantes. Le premier qui a décrit la maladie, c'est l'André Beauvais, en 1800. Donc, avant lui, on a peu de choses. On a essayé de voir si d'autres médecins d'autres écrivains avaient parlé de cette maladie tout à fait particulière, et si donc on pouvait donc faire remonter la maladie bien avant, bien intérieurement, à 1800. Eh bien, on n'a pas trouvé, ni dans les écrits médicaux, ni dans les écrits littéraires, je pense en particulier à Madame de Sévigné, on a longtemps cru que Madame de Sévigné avait pu avoir une polyarthrite. On a pensé aussi qu'Erasme, l'humaniste, Erasme, donc il parlait souvent dans ses courriers de ses douleurs articulaires, lorsqu'on étudie avec un esprit critique donc, toutes ces observations cliniques, entre guillemets, eh bien, elles ne relèvent pas, elles ne paraissent pas relevées donc, de cette maladie-là. De même façon, on s'est dit, ces déformations articulaires sont tellement caractéristiques, peut-être que... Des peintres les ont représentés. Et donc, moi le premier, je ne vais pas dans un musée sans regarder avec beaucoup d'attention les mains et quand elles sont représentées. On a cru à un moment donné, justement, cette... Une des trois grâces de Rubens, ça c'est le tableau de Rubens, vous voyez, on le voit mal, mais quand on est devant le tableau, on peut se poser la question, on se le pose d'autant plus que Rubens et ainsi que sa seconde épouse, ont souffert aussi de rhumatisme. Pour Hubert, on est à peu près sûr que c'était une goutte. Pour Hélène Fourmart, on n'en est pas sûr. Alors, étant donné donc, qu'on n'a pas d'écrit, qu'on n'a pas de représentation, on s'est posé la question, est-ce que cette maladie n'est pas revenue du Nouveau Monde? Est-ce qu'au fond, Christophe Colomb, non seulement nous a ramené la syphilis, mais est-ce qu'il ne nous aurait pas ramené la polyarthrite? D'autant que l'étiologie bactérienne est toujours en vigueur, et on pense toujours à cette possibilité d'une origine bactérienne de la polyarthrite. Donc, vous voyez que l'histoire des maladies est, au fond, se confond avec l'histoire en général. Eh bien, il a fallu, la confusion a été très longue, la confusion, vous voyez, est très longue, et il a fallu attendre 1931 pour que trois médecins, Coste, Lacapère et puis Forestier, eh bien, écrivent un article fameux dans la presse médicale où ils ont donc définitivement précisé les caractères cliniques, biologiques et radiologiques de l'arthrite et de l'arthrose. Donc c'est une différenciation qui est relativement récente puisqu'elle date de 1931 cet article, cette différenciation a permis, et au fond, d'y voir plus clair dans ce que les patients ont appelé rhumatisme, qui est un terme excessivement vague. Alors, le rhumatisme de Renoir. Donc, Pierre-Auguste Renoir a souffert vers la cinquantaine d'une polyarthrite chronique évolutive, qu'il a fortement invalidée, sans toutefois l'empêcher de peindre jusqu'à l'extrême fin de sa vie. Il est souvent difficile de déterminer le début de la maladie, tant il est fréquent que son installation est progressive, avec des douleurs articulaires peu caractéristiques et qui n'amènent pas toujours le malade consulté. Nous avons là un portrait de Renoir, il a 26 ans, c'est Frédéric Bazille, et je ne sais pas si vous connaissez ce peintre, Frédéric Bazille, qui est un peintre montpelliérain, qui est mort jeune, et c'est un peintre d'ailleurs que l'on va pour la première fois, et il va y avoir une rétrospective de ses œuvres à Montpellier dans le courant de 2016. Et c'est un peintre tout à fait intéressant. Mais, voyez, il peint Renoir, qui est un beau jeune homme, il a 26 ans, il a des articulations très souples, et ses mains sont de très belles mains, et là, on ne voit absolument pas de déformation donc, qui puisse évoquer, et de peu ou de loin, et une polyarthrite. Et la date, donc, que l'on retient comme début de sa maladie est 1897. Il a 56 ans, et pendant un séjour à Essois est un petit village en Champagne, c'est le village natal de son épouse, il est d'ailleurs, et Renoir, enterré à Essois, et ainsi que son épouse, il chute d'une bicyclette et se fracture le poignet. On immobilise la fracture et dans les mois qui suivent, il va se plaindre de douleurs de l'épaule et du poignet et de la main. Et cet épisode traumatique donc, fait que les biographes et la famille donc, retiennent donc, l'étiologie traumatique. Et il a eu ce rhumatisme directement lié à cette fracture. Et de fait, la polyarthrite rhumatoïde post-traumatique n'est pas une étiologie recevable. D'autant que les douleurs dont se plaint Renoir à ce moment-là peuvent très bien être la conséquence de sa fracture du poignet. Vous savez que souvent, après une fracture dite périphérique, peut se développer une maladie qu'on appelle l'algodystrophie réflexe, et qui donne justement des douleurs de l'épaule et de la main, ce fameux syndrome épaule-main. Donc, je pense que les biographes et la famille ont confondu cette complication, qui n'était pas connue à l'époque, avec donc sa polyarthrite. L'analyse, donc ici, voilà, vous voyez, 1980. Donc, là, vous voyez, 1890. Là, vous voyez, on voit Il a une main qui est tout à fait normale, il n'a pas de déformation. Par contre, vous voyez, sur cette photographie qui a été prise en 1896, donc un an avant les soies, avant la pointure du poignet, eh bien là, on s'aperçoit, quand on regarde avec attention, qu'ici, vous voyez, au niveau du pouce et surtout des deuxième et troisième métacarpophalangiennes, il y a une tuméfaction tout à fait caractéristique d'une polyarthrite débutante. Ça, c'est un cliché et tout à fait intéressant donc, pour ceux qui s'intéressent donc, à l'histoire des maladies. Ensuite, il y a également un autre cliché, c'est celui qui a été pris en 1898 aux obsèques de Stéphane Mallarmé. Renoir était ami avec Stéphane Mallarmé. D'ailleurs, ici, ce personnage, c'est Édouard Vuillard, le peintre. Et ici, ça, c'est la célèbre Missien Natanson. Bon, mais là, sur cette photographie, de 1998, là aussi, on voit les mains et commencent à être déformées. Il commence à y avoir ce qu'on appelle un petit coup de vent cubital, une subluxation et des articulations. Et vous voyez, au niveau ici de cette main. Je ne sais pas, le cliché suivant, non. Alors, on va revenir. Alors, pour revenir en arrière, bon, certains auteurs, dont l'éthiologie donc post-traumatique a été éliminée, mais à ce moment-là, certains auteurs danois se sont interrogés sur la possible et origine toxique de sa polyarthrite. À cette époque-là, les pètes utilisaient des pigments qui étaient riches et en métaux lourds, en plomb, en mercure et en arsenic. Et ils avaient l'habitude, souvent, de mettre leur pinceau à la bouche, et pour les mouiller un petit peu. Et on s'est posé la question, donc, non seulement pour Renoir, mais pour d'autres peintres, et est-ce que ces habitudes-là n'auraient pas entraîné une intoxication avec ces métaux lourds qui auraient été possiblement et à l'origine de la polyarthrite. Eh bien non, on connaît mieux maintenant, et mieux que ces auteurs danois, et les complications possibles de ces métaux lourds, ce sont des complications neurologiques, et non pas des complications articulaires. Donc, lorsque Renoir consulte, on parle d'emblée de quoi ? D'arthritisme. On dit que vous souffrez d'arthritisme, et sans plus de précision. Et les médecins consultés vont lui prescrire le seul médicament que l'on avait à l'époque, c'est-à-dire l'antipyride. Et c'est un médicament à la fois antalgique et anti-inflammatoire, et toute sa vie, et donc Renoir va prendre de l'antipyride. On lui prescrit également des purgations. Et Renoir écrit à un de ses amis, et il lui dit, on considère l'arthritisme comme un mystère absolu, tout ce qu'on sait, c'est que ça peut devenir grave. Voilà. Et voilà ce qu'il dit à son ami. Et donc, à ce moment-là, au tout début du XXe siècle, malgré la thèse de l'André Beauvais, malgré la thèse de Charcot, dont je n'ai pas parlé, mais le grand Charcot, et Jean-Martin Charcot, et surtout connu et comme neurologue, a fait sa thèse, lui aussi, sur la polyarthrite. Et sur donc ce qu'on appelait encore, avant qu'il ne fasse sa thèse, la goutte asthénique primitive, c'était le nom que lui avait donné André Beauvais, on n'avait pas encore trouvé, et lui, dont l'avait appelé polyarthrite et évolutive. Mais Charcot avait confondu, en particulier au niveau des doigts, arthrite et arthrose. Donc encore, ce n'était pas très clair, et encore à ce moment-là. Renoir donc fera pour se soigner donc sur les conseils d'amis au fond de nombreuses cures thermales à Aix-les-Bains en particulier et à Bourbonne-les-Bains sans résultat et en 1898 il est touché par une nouvelle crise rhumatismale et à partir de cette date l'installation progressive donc de la polyarthrite et va devenir de plus en plus invalidante et ne cessera de le tourmenter. Et les douleurs l'inciteront à travailler de préférence en raison du climat dans le sud de la France et il finira par s'installer à Cagnes-sur-Mer. Et à Cagnes-sur-Mer, il y a d'ailleurs dans sa maison les Colettes et un petit musée consacré à Renoir. Et les articulations vont se prendre les unes après les autres et donc en 1202, il est obligé de marcher avec deux cannes. En 1908, il est obligé de prendre des béquilles. à 1910 et le fauteuil roulant va s'imposer. Mais ce sont les atteintes des mains, des poignets et des épaules qui resteront les plus spectaculaires. Son fils Jean, et le cinéaste, il a eu deux fils, toi déjà, son fils Jean écrira, et ses mains étaient affreusement déformées. Les rhumatismes avaient fait craquer les articulations, repliant le pouce vers la paume et les autres doigts vers le poignet. Avec ces mains-là, il ne peut pas peindre. Il y a un mystère, le mystère, c'est Renoir lui-même. Hein. Et ce ne sont pas, toutefois, ses mains qui le gêneront le plus pour peindre, mais l'arthrite destructrice et ankylosante de l'épaule droite. C'est ce qui l'obligera à modifier sa technique picturale et il ira jusqu'à se faire confectionner un chevalet spécial, plus adapté à ses difficultés physiques. Il faut aussi en finir avec le mythe, vous savez, c'est écrit partout, on peut lire qu'on lui a attaché les pinceaux pour peindre. Non, les bandelettes que l'on voit sur de nombreuses photographies, c'était simplement des bandelettes pour protéger ses articulations les unes par rapport aux autres. Mais il tenait son pinceau entre le pouce et l'index. Hein. Et je vais donc vous montrer toute une... Voilà. Voilà donc, et vous voyez Renoir et Aline, c'est sa femme. Vous voyez les mains et, telles qu'il les a. Voilà. Ici également, voilà Renoir en train de peindre aux Colette. La palette était reliée, était maintenue par une petite ficelle au poignet, parce qu'il lui arrivait de la tomber souvent, et donc pour lui éviter, parce qu'il ne pouvait pas se fléchir, donc il pouvait donc reprendre la palette. Ici, voilà encore. Alors, vous voyez, voilà ça, ces bandelettes, c'est simplement fait et pour protéger les articulations les unes par rapport aux autres. Vous voyez, les déformations de ses mains sont tout à fait caractéristiques et témoignent d'une forme très évoluée de polyarthrite. Voilà encore, en 1912, voilà, et là c'est Renoir, Aline, sa femme, et ça c'est son autre fils, Claude. Je ne sais pas, voilà, voilà encore une dernière photo de 1915, et voilà le tableau qui est en train de peindre, vous voyez. Voilà. Alors, malgré donc les douleurs et les maladies, Renoir va peindre jusqu'à ses derniers jours. Des tableaux où se manifeste le bonheur de vivre, on va en voir quelques-uns, et les danseuses au tambourin ou au castagnel, le concert ou les jeunes baigneuses. Et son dernier grand tableau, et les jeunes baigneuses, témoigne encore et toujours de sa capacité à s'émerveiller. « Je fais encore, c'est lui qui parle, des progrès », disait-il quelques jours avant sa mort. Et il meurt en 1919, à l'âge de 78 ans, d'un accident vasculaire cérébral au décours d'une bronchopneumonie. Et voilà, vous voyez, et malgré les douleurs, je fais encore des progrès. Et voilà, vous voyez, alors ça c'est un tableau, et sur le plan pictural, il y a eu trois grandes périodes, on distingue les historiens de l'art, distingue trois grandes périodes dans toute l'histoire donc, et picturale de Renoir. La période la plus flamboyante, celle que l'on connaît le plus, c'est bien sûr la période dite impressionniste. Mais ensuite, il y a eu une période qu'on appelle ingresque. Ça, c'est la période ingresque. Et à partir de 1890, vous voyez, et il va donc, ça va être sa période qu'on appelle nacrée. Ça, il modifie un petit peu sa façon de peindre. Ça, c'est Gabriel, 1905. Et c'est à l'époque où il commence à marcher avec des béquilles. Et ici, 1907, Gabriel également. Hein. Voilà, c'est ici, 1919, c'est-à-dire l'année de sa mort. Voilà ce que peint Rimbaud, l'année de sa mort. Et voilà encore la femme à la mandoline. Et puis voilà le dernier tableau, celui qu'il a retouché jusqu'à la fin, et à quelques jours de son décès, les jeunes baigneuses. Voilà, et donc, on ne peut pas imaginer donc, qu'il ait pu peindre ce tableau et dans l'état dans lequel il se trouvait. On reviendra après sur sa technique. Alors Dufy, et il commence à souffrir de sa maladie donc, à l'âge de 58 ans, donc un peu avant 1937, donc 40 ans après Renoir. Et à ce moment-là, le statut de la polyarthrite n'était plus tout à fait le même, tant sur le plan du diagnostic que sur le plan du traitement. Et Voilà une photo qui a été prise alors qu'il avait 48 ans, donc quelques années avant qu'on a mal de tout. Vous voyez, on voit très bien sa main et on voit qu'il a une main gauche, même une partie de là, et ici une main droite, une main gauche, donc ils sont des mains et qui ne sont pas touchées donc par le rhumatisme. Alors, sur le plan thérapeutique, l'histoire du fil est intéressante sur ce plan-là. Vous allez voir pourquoi. Sur le plan thérapeutique, les choses avaient bougé. Hein. Et Dufy va bénéficier du traitement de fond de la maladie par les sels d'or. Et les sels d'or, l'allocrisine, on l'a utilisé jusqu'aux années 2001-2002. Et je crois qu'elle n'a été supprimée du Vidal qu'à la fin, que vers 2009-2010. Donc c'est pour dire que c'était un traitement qui a eu, traitement de fond, qui a eu la vie longue, traitement de fond. Et donc, Dufy va bénéficier donc de cette prise en charge thérapeutique. Et ce traitement donc donnait des rémissions tout à fait intéressantes. En 1942, alors qu'il a déjà, donc il souffre déjà de sa maladie, eh bien, on lui fait une cure de sel d'or et son amélioration est telle qu'il peut, avec des amis, donc participer à une ascension du Canigou. Voyez, donc il fallait être en forme avec une polyarthrite. Mais très vite, malgré le recours donc, à ces sels d'or et à la physiothérapie, à de nombreuses cures thermales, à des médecines et non orthodoxes, son état ostéo-articulaire va se dégrader. Et il avait même appris à peindre avec la main gauche pour soulager la droite. Il peignait indifféremment avec la main gauche ou la main droite. Et il ne pouvait plus dicter et il ne pouvait plus écrire son courrier et est obligé de le dicter. Alors c'est alors 1950 que le professeur Homburger de Boston, qui était un chef de service au Jewish Memorial Hospital de Boston. À ce moment-là, Homburger expérimentait pour la première fois au monde la cortisone dans la polyarthrite. Et il propose à Dufy de traiter sa polyarthrite par ce médicament. Alors comment avait-il su que Dufy souffrait de polyarthrite? Eh bien, on était venu à Perpignan, Life, le Paris Match de l'époque américaine, était venu pour donc faire une interview de Dufy, une interview sur sa peinture. Mais on avait donc pris quelques photos, et c'est sur cette photo que le professeur Homburger a fait le diagnostic de la polyarthrite de Dufy. Il lui écrit, je pense que vous souffrez d'une polyarthrite, et justement, il y a un nouveau médicament, la cortisone, si vous voulez, je vous en ferai bénéficier. Et sur les conseils donc, de ces médecins, Dufy va accepter donc, à aller à Boston, il y va, il est grabataire, il va en fauteuil roulant, il va traverser l'Atlantique, donc pour essayer donc, de traiter son rhumatisme. Et alors, la cortisone, bien sûr, prescrite à haute dose, en ce moment-là, on sait, c'était les premiers malades que l'on traitait par la cortisone, va améliorer rapidement Dufy, bien sûr, qui va au bout de quelques jours, il va donc avoir l'impression donc, qu'il est guéri. À telle enseigne même, vous voyez, telle enseigne qui va peindre donc, ce fameux tableau, la cortisone, véritable hymne à la cortisone, vous voyez, et qu'il offrira d'ailleurs au laboratoire Roussel. C'était le laboratoire qui commercialisait la cortisone en France et en Europe. Mais on maîtrisait mal, donc la prescription de cortisone et Dufy accusa de nombreux effets secondaires, qu'on appelle des effets iatrogènes. Et d'autant plus qu'à la cortisone, il ajoutait à ce moment-là, ce n'était pas de contre-indication, de l'aspirine. Il prenait tous les jours de l'aspirine, en plus de la cortisone. Alors il écrit à son ami, à son grand ami perpignanais, Ludovic Massé, au mois de juin 1950, donc quelques semaines après être arrivé à Boston, « Le traitement de cortisone est terriblement fatigant pour moi. Je peux marcher 10 minutes sans canne ni béquille. » Il ne marchait plus. Les articulations sont bien dégradées. Mais l'atrophie musculaire est extrêmement dure à récupérer. Mes articulations sont plus libres, mais sans muscles pour les tenir, elles me font comme un pantin désarticulé. Et au docteur Puig, qui était son médecin à Perpignan, Il écrit toujours à la même époque, ma santé est assez bonne, j'ai bien récupéré 90% de mon état général, avec un 90%, et de 60 à 70% de mon état rhumatismal, après tous les incidents et accidents de traitement par la cortisone, qui est très dure. Je vous promets que je me souviendrai des 3 mois au Yewish Hospital. Avec un peu d'aspirine et toujours 35 mg de cortisone et des béquilles, je travaille assez bien. Donc il avait repris et donc son travail de peintre donc, pendant son séjour américain. Mais très vite, les effets bénéfiques de la cortisone vont s'estomper et la maladie va reprendre le dessus. Et Bernard Niccolo, un de ses amis dont on a déjà parlé, se souvient qu'il était bouffi et violacé et dans un état de faible résistance. Vous voyez ça, c'est bien sûr le visage des patients et qui ont pris et qui continuent à prendre beaucoup de cortisone et ces visages un petit peu bouffés et violacés, et ce qu'on appelle le facies cushingoïde, qui ressemble donc aux patients qui souffrent de la maladie de Cushing. Mais remarquez, il a donc ce visage donc, qui est directement lié aux complications de la cortisone, mais regardez ses mains. Ses mains ne sont plus tumifiées. Ses mains, au fond, on a l'impression qu'elles se sont libérées de l'arthrite. Vous voyez, il n'y a plus de tuméfaction, ni même au niveau de ses articulations, métacarpophalangiennes, même au niveau de RS déformé. Mais voyez, à la fois, il y avait donc un mieux-être articulaire, mais des complications générales tout à fait importantes. Et à ce moment-là, il songe donc, il revient à Perpignan et il compte s'y installer parce qu'il s'y plaisait beaucoup. Mais bon, la marinade et qui souffre souvent et cette humidité ne sont pas bonnes pour son rhumatisme. Et donc, il préfère donc changer de climat et s'installer à Fort-Calquier. Il s'y installe malheureusement seul car c'est cette année-là donc, qu'il a divorcé. Et il va rapidement, nous sommes donc, vous voyez, c'était en 50-51, il va décéder le 23 mars 53, 78 ans, au même âge que Renoir, emporté par une hémorragie digestive. Voilà. Et le 24 février, donc quelques jours avant, il écrivait à Ludovic Massé, son ami de Perpignan, « Je me débats avec mon foie, mon intestin et mon estomac, ravagés par l'oryomycine et la pénicilline, qui m'ont délivré d'une congestion pulmonaire. » C'est une des effets secondaires de la cortisone que de favoriser l'installation de maladies bactériennes. Je suis encore très faible et au repos complet et il meurt quelques jours après. Alors on va également voir quelles sont les incidences de la maladie sur l'œuvre de ces deux grands artistes. Et alors compte tenu de l'handicap et articulaire de la maladie et en priorité des déformations et de l'ankylose des doigts, mais aussi de toutes les autres conséquences locales, atteinte donc du poignet, du cou, de l'épaule surtout. Eh bien, on peut se poser la question, est-ce que ce rhumatisme a eu des conséquences sur l'activité donc artistique? Eh bien non. Non. Et il n'y a pas eu de conséquences majeures sur le cours de leur activité artistique. Ils ont pu, l'un et l'autre, continuer à peindre jusqu'à la fin de leur vie. Alors chez Renoir, les historiens d'art s'accordent pour dire que sa maladie n'est en rien responsable de sa dernière manière de peindre. Je vous signale que sa dernière manière, c'est la période nacrée, et qu'il avait commencé à peindre et de cette façon-là bien avant que ne s'installe la polyarthrite. Mais ce qui va donc surtout gêner donc Renoir et qui va l'obliger à modifier à la fois sa technique et puis même son style, c'est l'atteinte de l'épaule. Donc il va se faire un chevalet réglable pour affronter les grands formats. Il aimait faire des grands formats et donc il se fait faire un chevalet avec un système pour faire tourner la toile de manière à ne pas avoir. Il ne pouvait pas lever la main donc, de manière à peindre donc, au même niveau que sa main. Voilà. Et il va également modifier sa technique. Et si vous avez eu l'occasion de voir de près des tableaux impressionnistes, de Renoir en particulier, eh bien, on s'aperçoit que c'est fait par petites touches épaisses et par des pigments colorés et que au fond progressivement et eh bien Renoir va peindre un peu différemment. Il va donc il va éviter de mélanger des pigments, il va donc prendre des peintures plus transparentes, plus faciles donc à étaler sur la toile. Et quand, si vous avez l'occasion de voir des peintures de Renoir, eh bien, on peut pratiquement dire de quelle année elles sont si on regarde attentivement le style, la façon dont il peint. Et c'est tout à fait... Là, ça ne se voit pas, bien sûr, sur les... Ici, ça ne se voit pas, mais j'ai eu l'occasion de voir ces jeunes baigneuses, donc c'est tout à fait différent des tableaux qu'il faisait à l'époque impressionniste. Hein. Ce qui va rester toujours pareil, c'est son inspiration et ses modèles, et qui sont toujours les mêmes. Renoir reste fidèle à son amour de la nature, des femmes pleines de vie, comme en témoigne dans son dernier grand tableau des années 1918-1919, Les Jeunes Baigneuses. Et Germain Bazin, historien de l'art, exprime bien l'esprit de cette peinture et du peintre lui-même. C'est Germain Bazin qui parle. La vieillesse de Renoir, plus encore que celle du Titien, montre ce que peut un homme aux prises avec la mort envahissant son corps, quand la flamme de l'esprit brûle toujours dans ce corps desséché comme un sarment. Voilà ce que disait donc Bazin à propos donc de Renoir et à propos de ses dernières œuvres. Alors chez Dufy, et c'est la cortisone et les conséquences donc, de cette cortisone qui sont à l'œuvre. Et c'est tout à fait intéressant de relire ce que disait Dufy lui-même, voyez. Pour moi, tout va bien. C'est une lettre de Dufy à la fin des années 51-52. Pour moi, tout va bien. 50 mg de cortisone par jour. Il en prend encore 50 mg, ce qui est beaucoup. Un peu de sel. Il n'aurait pas dû prendre du sel, bien sûr, avec la cortisone. Environ une heure de marche vers 4 à 5 heures. Un appétit féroce, un bon sommeil, 2 à 3 heures de peinture avec un repos chaque heure. Voilà quel est le programme de Fort Calquier. Ma peinture va très bien. Est-ce la cortisone ou les hormones? Mais je peins en ce moment des sujets que j'ai étudiés quand j'étais jeune et qui ne m'avaient plus satisfait depuis longtemps. Sur des choses construites à la manière de Cézanne, j'ai ajouté des couleurs pures de mon cru, que je cherchais en vain depuis plus de 30 ans. Est-ce une renaissance ou un chant du cygne, du fauvisme ou dans l'excitation du travail réussi, une erreur de mes sens abusés? Voyez avec quelle précision dont il décrit son état, à la fois physique et mental. Or, les effets indésirables de la cortisone sont très nombreux, Surtout quand on utilise la cortisone à forte dose et de façon prolongée, et a fortiori à une époque où l'on méconnaissait totalement les effets secondaires, dont l'état de surexcitation de la cortisone peut provoquer, par son effet stimulant sur le système nerveux, et cet état dont ils viennent de parler. Et Dufy analyse très bien cette situation, de même que les épisodes dépressifs dont il était sujet donnent lieu donc à des compositions vides de personnages, témoignant de la solitude dans laquelle Dufy se trouve à ce moment-là. Il était effectivement seul, il avait divorcé avant de s'installer à Fort Calquier, il était malade, il ne pouvait pas bouger donc de son appartement. Et l'angoisse de mort devait être là quand même. Et elle devait souvent l'habiter. Et cette angoisse de mort, malgré le traitement, va se manifester par l'émergence inhabituelle dans sa palette de la couleur noire. Ça, je l'ai aussi remarqué, c'est un aparté dans l'évolution d'un pain sous l'effet de la maladie, Paul Klee, je pense que certains d'entre vous connaissent Paul Klee. Paul Klee a été, dans les dernières années de sa vie, atteint d'une maladie gravissime, la sclérodermie systémique, et sa palette alors, a énormément s'être assombrie au fur et à mesure donc, que sa maladie s'aggravait. Eh bien, ça a été pareil. Voyez, voilà encore donc. Et Dufy, dans son atelier, à Fort-Calquier, vous voyez, les mains, là, on reconnaît les mains de la polyarthrite. Hein. Et d'ailleurs, il peint, vous le voyez, avec la main gauche. Et vous voyez, c'est le cargo noir, voilà. Et on ne reconnaît pas spontanément, ce n'est plus le Dufy que l'on connaît, celui des almanachs, des postes. Là, cette reproduction n'est jamais là. Il y a peu de personnages. Le seul que l'on voit est peut-être ce personnage-là, peut-être en train de se noyer d'ailleurs, Voilà, le cargo noir. Donc, et c'est directement lié, à mon avis, donc, à son statut et de ce moment-là. Mais Dufy, lorsqu'il écrit ou lorsqu'il y a du monde qui vient le voir, il fait montre le plus souvent d'un optimisme indéfectible, ne se plaignant que rarement de sa maladie, et poursuivant jusqu'à la fin une œuvre où domine quand même le bonheur de vivre. C'est lui qui parle « Je suis seulement anxieux de savoir quelle signification peut revêtir cet ensemble de travaux faits à partir de ma chambre de malade, réfugié, soigné, mais tourmenté de mes peines intimes. » Qu'entend-il par peines intimes? À la fois, à mon avis, des peines physiques, mais surtout des peines morales. « Ai-je trop cherché à m'évader de celle-ci? Ai-je bien ou mal fait ?» Voilà, donc également, vous voyez, il était à la fois capable de peindre le cargo noir, mais la même année, il a peint, c'est un de ses derniers tableaux. Donc, ces deux peintres, Renoir et Dufy, donc, ont eu un même destin rhumatismal, une maladie articulaire chronique qui va les invalider progressivement, les diminuer dans leur corps et les atteindre aussi dans leur morale. Mais face à cette maladie, ils vont chacun à leur manière faire face courageusement, trouvant dans la peinture la force de ne pas s'abandonner au désespoir. Et ce, malgré des recours thérapeutiques totalement inexistants et pour Renoir, est très insuffisant et même délétère pour Dufy. On peut même se poser la question, est-ce que ce n'est pas la cortisone qui a été responsable de sa mort prématurée? Mais des deux, c'est Renoir qui reste le plus surprenant. Et par sa capacité à positiver, je le cite, « Vraiment, c'est lui qui parle, je suis un homme heureux. Je ne peux rien faire d'autre que de peindre. » Il était dans un fauteuil roulant. Je n'ai pas à me plaindre. J'ai gardé mes yeux. Et une autre fois, Ambroise Vollard, qui était son galeriste et son marchand, en somme, je suis un vénard. Voyez. Quelle belle leçon de vie. 4 mois avant de mourir, visitant le Louvre, et Renoir, ouvert un soir à sa seule intention, alors qu'on le promenait dans une chaise à porteur, devant les noces de Cana de Véronèse, il s'exclama, heureux comme un enfant, enfin, j'ai pu les voir en Simèse. Et il allait mourir quelques semaines après. Dans l'œuvre de Renoir, et l'œuvre de Dufy, et de bien d'autres, je pense en particulier à Paul Klee, dont je vous ai parlé, mais aussi à cette peintre mexicaine, Frida Kahlo, qui elle aussi a été douloureusement touchée. Et dans son corps. Eh bien, ces œuvres témoignent du pouvoir de l'artiste de se libérer, au moins en partie, et par leur art, de la douleur, de la souffrance et de l'handicap, de la maladie qui les a frappés. Alors, c'est une question que je pose, à côté des médicaments, peut-être devrait-on plus souvent faire appel à l'art-thérapie. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Et voilà, maintenant, s'il y a des personnes qui ont des questions à poser, c'est le moment. Jean-Pierre. Merci. Pour revenir aux difficultés qu'ils avaient à tenir le pinceau, vous avez fait allusion au changement de technique.
Oui.
Alors, est-ce que, je veux dire, des critiques d'art ont étudié de près la façon dont, sur les 30 dernières années, ils posaient la peinture, et est-ce que ça... Alors, vous avez mentionné la couleur, mais est-ce que ça a changé quelque chose dans le rendu pour le spectateur?
Donc, comme je vous ai dit au cours de mon exposé, il y a différentes périodes. Il y a une première période, dont la plus flamboyante, dont la période dite impressionniste. Et vous savez que Renoir, Basile, Pissarro et quelques autres donc, ont renouvelé donc, à la fois les thèmes et puis la façon de peindre. Et quand on regarde de près un tableau impressionniste, on voit donc que c'est fait par touches assez épaisses. D'ailleurs, il y a quelques impressionnistes qui ont fini d'ailleurs par devenir des pointillistes, par faire des touches de couleur les unes à côté des autres. Mais il y a eu également donc d'autres. Alors ici, là. Ici, vous voyez, on n'est plus dans la période dite impressionniste. Vous voyez, dans les années 1880, à ce moment-là, les impressionnistes se sont séparés. Chacun a continué sa vie et donc d'une façon tout à fait particulière. Et donc, cette seconde façon de peindre, c'est la période ingresque. On voit que ça n'est pas un tableau impressionniste. Si vous souvenez-vous des tableaux que je vous ai montrés au départ, ça, c'est la période ingresque. Et puis, à partir des années 1890, il a également songé, et on parle, bon, ça, ce sont les historiens de là, on parle de sa période nacrée. Alors, sa période nacrée a commencé avant, donc, le souffle de sa polyarthrite, et au fond, il peindra de cette façon-là jusqu'à la fin de sa vie. Et comme je vous disais, progressivement, quand même, il va abandonner les touches donc, avec des peintures un peu épaisses, donc difficiles à écraser, parce qu'il n'avait pas de force dans ses mêmes poux, donc des touches beaucoup plus fluides, une peinture beaucoup plus fluide, plus facile à passer, qui ne nécessite pas de force. Et ça, si vous avez l'occasion de voir donc, des tableaux de cette période-là, donc du XXe siècle, vous verrez que c'est tout à fait différent. On peut les comparer au musée Marmottan à Paris, le musée donc, des impressionnistes. Il y a bien sûr beaucoup de tableaux de Monet, mais il y a pas mal de tableaux de Renoir, et on peut passer d'une période à une autre et voir avec attention qu'il ne peint pas de la même façon. Et en particulier, et à partir de 1902-1903, donc, il peint toujours, ça reste toujours dans cette période dite nacrée, où on voit donc la peinture, ce ne sont pas des touches épaisses, c'est tout à fait différent. Hein, parce qu'il ne pouvait pas, il ne pouvait plus écraser la peinture, il n'avait plus de force, il pouvait donc se servir de passer des couches très légères, transparentes. Voilà. Oui. Ce que l'on peut retenir, c'est de voir à quel point la peinture les a aidés quand même. Bien sûr qu'ils ont souffert, surtout Renoir qui en a bénéficié, donc il n'avait pas de traitement à l'époque. Mais ça les a pas, oui, le fait de souffrir, ça n'a pas empêché quand même de continuer jusqu'à la fin à faire des tableaux. Ça, c'est une leçon de vie quand même, je trouve que c'est tout à fait admirable, et aussi bien l'un que pour l'autre. Pareil d'ailleurs pour Frida Kahlo également a peint jusqu'à l'extrême fin, et pourtant elle était très très handicapée, Frida Kahlo, et comme Paul Klee qui est aussi un très grand peintre, lui, par contre on le voit quand on va dans le musée où il y a le plus de peintures de Klee à Berne, on voit très nettement au fur et à mesure que l'on approche de 1941, on voit que sa palette. Alors lui, il était touché dans son moral, sa palette s'assombrit terriblement. Pour Dufy, on a que ce fameux carcan noir, mais qui est assez, à mon avis, significatif quand même. De voir qu'à ce moment-là, c'était plus quand même tout à fait. Au moins, quand il a peint ce tableau, il devait être en proie à une angoisse dont il ne parlait pas, mais une angoisse de mort. Sûrement, il ne devait pas être bien quand même dans sa tête. Voilà. Ah, pardon.
D'autres questions ? Moi, j'en aurais une. Vous parlez de cette passion qui est porteuse, qui leur permet de poursuivre leur joie ou leur vie à travers la peinture. Est-ce que ça se retrouve aussi dans d'autres domaines artistiques ? Je pensais à un pianiste très célèbre, son nom m'échappe, qui avait comme maladie ce qu'on appelle la maladie des os.
Des os de verre.
Oui. Et le nom ? Comment ?
Oui, il était dans un fauteuil roulant.
Oui, il était dans un fauteuil roulant. Et lui aussi a joué jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'au dernier moment. Est-ce que cette force à travers l'art se trouve aussi dans d'autres domaines ? Vous l'avez trouvé dans d'autres domaines ?
Oui, en tout cas, je l'ai trouvé, surtout chez les peintres. Hein. Mais ensuite, par exemple, le sculpteur, s'il avait été sculpteur, il n'aurait pas pu faire. Non, c'est une impossibilité physique. Les musiciens, sûrement, qu'il y a d'autres exemples, le nom de monsieur. Écoutez, Beethoven,
oui.
Il était sourd, il n'entendait plus la musique qu'il écrivait, ce qui n'a pas empêché de continuer jusqu'à la fin de sa vie à écrire la musique. Mozart également, et qui a les deux dernières années de sa vie a été très malade, et il n'a même pas pu aller à Prague et pour son requiem, mais jusqu'à la fin il a quand même écrit, jusqu'à la dernière semaine, il a continué à écrire. Et on a encore des œuvres de Mozart qu'il a écrites quelques jours avant de mourir. Oui, c'est sûr que l'activité créatrice donc va au-delà au fond de la maladie. Quoi. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas souffert. Hein. Quand on voit un tableau comme ça, on ne peut pas imaginer qu'il était à quelques semaines de sa mort, et puis qu'il était surtout très très handicapé, quoi. Il ne bougeait plus, Renoir, à ce moment-là, il était à son fauteuil roulant, il avait tout un environnement, sa femme et puis d'autres personnes qui devaient l'aider, même à manger, mais il a continué toujours avec sa main, comme ça, à peine. On a d'ailleurs le témoignage de certaines de ses modèles, qui étaient en admiration, mais sûr, qui posait pour lui, qui voyait à quel point cet homme souffrait, était handicapé, et qu'il ne revenait pas au fond du tableau qu'il avait fait, ou qu'il était en train de faire. Je vous le redonne.
Bien, si vous n'avez plus de questions, on va passer à la troisième partie de la conférence, c'est-à-dire le repas partagé. Et là, peut-être, des questions vous viendront et vous pourrez les poser aux intervenants et le père partagera avec vous ce repas. Merci. Ah, attendez, une question.
Oui, une conférence en février.
Mais je me dis, le bon temps d'une. Bien, monsieur Dillet, on passe à côté. Merci. Vous partagez avec nous quelques...
Oui, oui. Voilà. Alors, je vais reprendre ça.
Mais, comment ?
Je reprends ça. Voilà. Après, ça, vous en occupez un peu de ça, hein ?
Oui, 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 bien sûr.
Je vais prendre ça, je vais.